Chapitre 13. Dwayne McBride avait réussi à persuader son oncle, Art, que mercredi serait le jour parfait pour se rendre à la bibliothèque de l'université. Depuis des années, oncle Art dépensait presque tout son argent en livres, mais il aimait bien de temps en temps aller dans une bibliothèque digne de ce nom. Ils partirent donc ensemble vers 8 heures du matin. Ce qu'oncle Art ne dépensait pas en livres, il l'investissait dans son automobile, et Dwayne ne pouvait que s'émerveiller devant l'imposant véhicule, une Cadillac dernier modèle pourvue de toutes les options proposées par l'industrie automobile américaine, y compris un réglage automatique des phares, commandé par un radar en forme de fusil à rayon laser, rappelant les inventions du pater. Oncle Art, confortablement calé sur son siège, conduisait avec trois doigts négligemment posés en bas du volant. Dwayne adorait son oncle, dont le visage jovial et la grande bouche semblaient toujours sur le point de sourire, comme s'il était amusé par quelque chose ou par une réflexion de quelqu'un. Ce qui, d'ailleurs, était souvent le cas. Art McBride était un humoriste. Alors que le père de Dwayne s'était réfugié dans l'amertume, Art cultivait une ironique résignation teintée d'humour. Martine voyait partout des cabales et des complots. Art était convaincu que la plupart des gens, et toutes les administrations sans exception, étaient trop stupides pour organiser la moindre conspiration. Certes, l'un comme l'autre aurait pu être considéré comme des ratés. Le père de Dwayne avait vu ses entreprises échouer pour plusieurs raisons. Il était mal organisé, il ne choisissait jamais le bon moment pour lancer ses inventions et c'était un gestionnaire dépourvu de toute efficacité, même s'il n'hésitait pas à dépenser une énergie hors du commun. En plus, il ne manquait jamais d'insulter la ou les personnes dont le soutien lui était indispensable. Oncle Art, de son côté, ne s'était qu'une fois ou deux lancé dans les affaires. Et il avait gagné de l'argent, qu'il avait allègrement dépensé pour ses trois épouses successives, maintenant décédées. Puis il avait décidé qu'il n'était pas fait pour les affaires. Maintenant, lorsqu'il avait besoin d'argent, il se faisait embaucher à l'usine Caterpillar de Peoria où, bien qu'il fût titulaire d'un diplôme d'ingénieur, il préférait travailler à la chaîne.
« Quel renseignement ésotérique veux-tu aller chercher à la bibliothèque de Bradley ?» demanda-t-il à son neveu.
Dwayne remonta ses lunettes sur son nez.
« Oh, juste un truc que je veux savoir et que je n'ai pas pu trouver à Oak Hill. »
« Tu es allé à la bibliothèque d'Elmaven, le plus riche dépositaire des connaissances humaines depuis la bibliothèque d'Alexandrie ?»
Dwayne sourit. La minuscule bibliothèque de Broad Avenue, une pièce en tout et pour tout, était un vieux sujet de plaisanterie entre eux. Elle renfermait environ 400 volumes, alors qu'oncle Art en possédait 3000. C'est chez lui que Dwayne serait allé chercher des renseignements sur la cloche des Borgia, mais il savait que son oncle avait peu d'ouvrages sur cette période.
« Tu as de la chance que je ne travaille pas en ce moment. »
La demande en ouvriers spécialisés était fluctuante, et oncle Art se retrouvait au chômage une bonne partie de l'année, ce qui n'était pas pour lui déplaire.
« Bon, sérieusement, que cherches-tu exactement ?»
Dwayne soupira.
« Je voudrais trouver des documents sur les Borgia. »
« Les Borgia ? Lucrèce, Rodrigo, César et toute la clique ?»«
Oui, tu sais des choses sur eux ? Tu as déjà entendu parler d'une cloche leur appartenant ?»«
Non. » Je ne sais pas grand-chose sur les Borgia, juste ce que tout le monde sait. Les empoisonnements, l'inceste, leur piètre performance en tant que pape. Je suis plus attiré par les Médicis. Ça, c'est une famille qui vaut la peine qu'on s'intéresse à elle.
Dwayne acquiesça. Ils entraient dans la vallée de la Spoon River, bordée de falaises couvertes d'une luxuriante végétation qui envahissait presque la route. Les seules traces humaines en vue étaient quelques séchoirs à maïs et le pont métallique au-dessus de la rivière. Sur le côté, une étroite passerelle courait jusqu'à un cylindre de tôle d'environ 1,50 m de diamètre, juché sur un pilier de ciment à 10 mètres au-dessus de l'eau. Dwayne savait qu'il cachait un petit escalier en colimaçon qui descendait vers un entrepôt de matériel des ponts et chaussées, situé au niveau de la rivière.
Lorsqu'on allait à Peoria, papa et toi, vous me menaciez toujours de m'abandonner là-dedans si je n'arrêtais pas de poser des questions. Tu t'en souviens ?
Demanda Dwayne en montrant du doigt le cylindre de tôle.
Vous disiez que c'était une prison pour gamins trop bavards et que vous me reprendriez au retour.
Oncle Art alluma une cigarette à l'allume-cigare de la voiture. Il regardait, les yeux mi-clos, les mirages tremblotés sur la route.
C'est toujours valable, tu sais. Une question de plus et tu vas passer plus de temps en prison que Thomas Moore.
Thomas qui ? C'était la question rituelle. Tous deux étaient d'ardents admirateurs de l'écrivain anglais.
Ça, c'était quelqu'un.
Et oncle Hart se lança dans un de ses monologues. Ils arrivèrent sur la Nationale 159 et tournèrent en direction de Kickapoo et Peoria. Duane se laissa aller contre le confortable dossier et songea à la cloche des Borgia. Dale, Mike, Kevin et Lawrence avaient quitté la ville d'assez bonne heure pour se rendre dans les collines boisées derrière le cimetière des Cavaliers. En le traversant à vélo, Mike jeta un coup d'œil à la porte cadenassée de la cabane à outils, mais il ne dit rien. Ils laissèrent leur bicyclette près de la clôture du fond, passèrent par un pré au beau milieu des bois et 500 mètres plus loin, ils arrivèrent à l'ancienne carrière qu'ils appelaient Billy Goat Mountain. Là, ils escaladèrent, crièrent et se battirent à coups de mottes de terre pendant une heure et demie avant de quitter leurs vêtements et de se baigner dans le trou d'eau. Jerry Deisinger, Bob McCone, Bill et Harry Fussner, Chuck Sperling et Digger Taylor arrivèrent vers 10 heures, tandis que Dale et ses amis se rhabillaient. Les jumeaux Fussner se mirent à les invectiver et les autres envahisseurs les attaquèrent aussitôt à coups de mottes de terre. Les deux camps échangèrent insultes et pierres au-dessus de l'eau, jusqu'à ce que les nouveaux venus se scindent en deux groupes qui commencèrent à s'approcher d'eux, chacun d'un côté.
« Ils essaient de nous encercler », remarqua Mike en remontant la fermeture éclair de son jean.
Kevin lança une motte de terre qui manqua largement sa cible. Deisinger leur cria une grossièreté et continua à courir le long de l'eau, s'arrêtant de temps en temps pour ramasser un caillou et le jeter dans leur direction. Dale ordonna à Lawrence de se dépêcher de mettre ses chaussures et lança une motte, pas une pierre. Il eut le plaisir de voir Chuck Sperling se pencher pour l'esquiver. Maintenant, motte et pierre pleuvaient dru, faisant gicler l'eau et s'incrustant dans les monticules de terre meubles derrière eux. Les attaquants se rapprochaient des deux côtés, mais juste derrière, les bois commençaient et s'étendaient sur des kilomètres.
« Rappelez-vous, » leur dit Mike, « si on se fait prendre, il faut qu'ils nous maintiennent au sol avant de nous considérer comme prisonniers. Si on leur échappe, on est libre. »«
Ouais !»
répondit Kevin avec un coup d'œil à la lisière de la forêt.
« On y va ?»
Mike le retint par son t-shirt.
« Et s'ils t'attrapent, tu leur dis pas où sont nos bases secrètes, hein ? Ni les mots de passe !»
Kevin prit une expression vexée, mais Jim Harlan, une fois, les avait trahis et ils ne pouvaient plus se servir de la base 5. Mais les autres n'avaient jamais rien dit. Les assaillants étaient maintenant assez prêts pour espérer les prendre en tenaille. Des mottes de terre volaient au-dessus de leur tête avant d'aller s'écraser dans les broussailles. Lawrence visa, se leva et lança un projectile qui toucha Chuck Sperling de plein fouet, avec assez de force pour que ses alliés se baissent en jurant comme des charretiers.
« Base 3 !»
cria Mike, indiquant ainsi l'endroit où ils devraient se retrouver dans 30 minutes après avoir semé leurs poursuivants.
« On y va !»
Ils s'égaillèrent vers Gypsy Lane en direction du cimetière ou droit dans les bois comme Lawrence et son frère. Derrière eux, les deux Fussner, McCone et les autres poussaient des hurlements tels une meute de chiens de chasse. Mais la forêt était épaisse, avec un sous-bois envahi par les ronces, les orties, des pruneliers et des buissons de toutes sortes, et tous étaient trop occupés à courir pour lancer des projectiles. Dale courait de toutes ses forces, mais il veilla à ne pas perdre Lawrence lorsqu'il tourna brusquement dans un ancien sentier. Il essaya en même temps de se rappeler la topographie du coin afin de retrouver la base 3 sans tomber sur ses poursuivants. Les collines renvoyaient l'écho de leurs cris. La bibliothèque de Bradley ne comptait pas parmi les meilleures. D'ailleurs, l'université était spécialisée en sciences de l'éducation, ingénierie et gestion. Mais Duane la connaissait bien et il trouva assez rapidement les renseignements sur le sujet qui l'intéressait. Il naviguait de fichiers en rayons et de rayons en microfilm, tandis que son oncle, assis dans un des fauteuils de la salle des périodiques, rattrapait des mois de retard de lecture de journaux et revues. Duane dut malgré tout parcourir pas mal de passages très généraux avant de tomber sur un premier indice, un détail anodin dans le récit de l'intronisation d'un pape. Lorsque le conclave de 1455 élut pape son Excellence Don Alonso y Borja, archevêque de Valence, cela fut une surprise même pour les membres de sa propre famille et un choc pour les Italiens. De l'avis général, ses principales qualités étaient son âge avancé et sa mauvaise santé. Le conclave avait besoin d'un pape intérimaire et tous pensaient que Borgia, ainsi transforma-t-on son patronyme espagnol à l'âpre consonance, jouerait parfaitement ce rôle. Devenu Calixte III, Borgia sembla puiser dans la pourpre pontificale un regain d'énergie. Il s'appliqua à renforcer son pouvoir et lança une nouvelle croisade, la dernière, contre les Turcs, maîtres de Constantinople. Pour célébrer son accession au trône de Saint-Pierre et le triomphe de la famille Borgia, Calixte fit fabriquer une grosse cloche fondue dans un métal extrait des collines d'Aragon. Selon la légende, ce métal provenait de la fameuse pierre astrale de Coronati, peut-être une météorite, mais sans aucun doute l'endroit où les forgerons de Valence et Tolède puisaient depuis des générations leurs matières premières. La cloche fut exposée à Valence en 1457, puis envoyée à Rome accompagnée d'une imposante escorte d'ecclésiastiques qui firent de longs séjours dans toutes les grandes villes des royaumes d'Aragon et de Castille afin d'y exhiber la cloche. En fait, la procession s'attarda un peu trop en chemin, car lorsque la cloche arriva à Rome le 7 août 1458, sa sainteté, alors âgée de 80 ans, avait rendu l'âme la veille au soir. Duane consulta l'index et parcourut tout le reste de l'ouvrage sans y trouver aucune autre mention de la cloche de Calixte III. Il retourna au fichier et revint avec des références d'ouvrages sur le neveu du pape, Rodrigo. Il trouva de nombreux détails sur ce Rodrigo Borgia et prit des notes rapides en se félicitant d'avoir apporté plusieurs carnets. Les deux premiers ouvrages, qu'il parcourut en se servant de sa technique personnelle de lecture rapide, ne mentionnaient pas l'existence de cette cloche. Il ne découvrit un nouvel indice que dans le troisième livre. Le pape Pie II, qui succéda à Calixte III, était un chroniqueur né, certainement plus historien que théologien. Dans ces minutes du conclave de 1458, interdites par la loi et par la tradition, il détaillait avec maintes précisions combien, sur son instante prière, Rodrigo Borgia avait soutenu énergiquement sa candidature. Puis, dans un passage daté du dimanche des Rameaux 1462, 4 ans plus tard, il décrivait la splendide procession organisée pour accueillir à Rome une relique, la tête de Saint-André. Duane sourit en lisant ces mots. Une fête pour célébrer l'arrivée d'une tête. Tous les cardinaux demeurant sur l'itinéraire de la procession avaient décoré leur façade avec la plus grande magnificence, mais rien ne pouvait égaler le décor imaginé par Rodrigo, notre vice-chancelier. Sa vaste et haute demeure, construite sur le site d'un ancien hôtel des Monnaies, était recouverte de haut en bas des plus somptueuses tapisseries. En outre, un dais avait été érigé, où étaient accrochés des objets de grande beauté et de grande valeur. Et au-dessus du dais, encadré de superbes sculptures, était suspendue la grande cloche, fondue sur l'ordre de notre prédécesseur, frère aîné du père du vice-chancelier. Malgré sa facture récente, cette cloche était, disait-on, le talisman de la famille Borgia et la source de sa puissance. Le cortège s'arrêta devant la place forte du vice-chancelier. Le palais retentissait de musique, de chants harmonieux et brillait de mille feux de l'or, tel, dit-on, celui de Néron. En l'honneur de cette fête du Saint-Siège, Rodrigo Borgia avait décoré non seulement son propre logis, mais aussi les maisons avoisinantes, de sorte que la place ressemblait à un parc en fête. Nous offrîmes de bénir la demeure de Rodrigo et la cloche, mais il nous fut répondu par le vice-chancelier que cette dernière avait été consacrée 2 ans plus tôt lors de la construction du palais. Stupéfaits, nous continuâmes avec notre précieuse relique à parcourir les rues au milieu de la foule en liesse. Duane hocha la tête, remonta ses lunettes sur son front et sourit. Il paraissait impossible d'imaginer que la cloche puisse être encore là, oubliée de tous, dans le clocher condamné d'Old Central. Il retourna au rayon, sortit quelques livres et revint à sa place. Il lui restait encore quelques ouvrages à lire. La base 3 se trouvait à flanc de colline, à 400 mètres environ au nord-est du cimetière des Cavaliers. Les bois étaient très denses dans ce coin, avec des branches qui descendaient à moins d'un mètre du sol, et les fourrés rendaient l'endroit pratiquement impénétrable, à moins de suivre les rares sentiers tracés par le bétail et les chasseurs à travers les buissons. La base 3, de quelque côté qu'on s'en approcha, ressemblait à un énorme hallier, un foisonnement de troncs du diamètre d'un poignet d'enfant surmonté d'un fouillis de branches rejoignant presque la voûte des arbres. Mais en se mettant à quatre pattes juste au bon endroit et en rampant exactement dans la bonne direction à travers les ronces et les broussailles, on découvrait l'entrée d'un refuge véritablement miraculeux. Dale et Lawrence y arrivèrent les premiers, tout essoufflés. McCown et les autres poussaient des cris à moins de 100 mètres derrière eux. Après s'être assurés que personne ne pouvait les voir, ils se jetèrent à quatre pattes et se glissèrent dans leur refuge. À l'intérieur, l'endroit paraissait aussi solide et sûr qu'une hutte. Un cercle presque parfait d'environ 2,50 m de diamètre. Les murs de végétation permettaient de glisser ça et là un œil à l'extérieur, mais du dehors, les occupants étaient complètement invisibles. Par quelque étrange phénomène, peut-être dû aux racines de ce bastion végétal, le sol était presque plat, alors que la pente de la colline était assez abrupte. Et une herbe rase et épaisse y poussait, aussi veloutée que le gazon d'un terrain de golf. Dale y avait une fois attendu la fin d'une violente averse, et il était resté aussi sec que dans sa chambre. À présent, allongé sur l'herbe, Dale et son frère s'efforçaient de reprendre leur souffle en faisant un minimum de bruit et écoutaient les voix surexcitées de leurs adversaires fonçant dans les bois.
« Ils sont partis par là !»
cria Chuck Sperling du vieux sentier qui passait à moins de 10 mètres de la base secrète. Derrière le rempart végétal se fit soudain entendre un bruit de feuilles froissées et de rameaux brisés. Dale et Lawrence brandirent comme des lances les bâtons dont ils s'étaient armés, et Mike, le visage écarlate, apparut au bout du tunnel. Ses yeux bleus brillaient comme des escarboucles, et une longue égratignure lui zébrait le front.
« Ous !» commença Lawrence.
Mike lui plaqua la main sur la bouche et fit un signe du menton.
« Juste là !» chuchota-t-il.
Les trois garçons se jetèrent à plat ventre dans l'herbe.
« Bon Dieu ! J'ai vu O'Rourke ici il y a une seconde !»
dit Digger Taylor juste au-dessus d'eux.
« Barry ! Tu vois quelque chose en bas ?»
hurla Chuck Sperling de l'autre côté des broussailles.
« Non, personne n'a descendu le sentier par ici !»«
Merde !»
glapit Digger.
« J'ai vu O'Rourke et ces connards de Stewart couraient dans cette direction eux aussi !»
À l'intérieur de la base 3, Lawrence leva le poing et commença à se lever. Dale le retint, bien que même debout, ils fussent invisibles de l'extérieur. Dale fit signe à son frère de se taire, mais ne put s'empêcher de sourire en voyant le visage empourpré de colère du petit garçon. Lawrence n'avait qu'une envie, baisser la tête et charger.
Peut-être qu'ils ont remonté la colline en direction du cimetière, à moins qu'ils ne soient retournés à la carrière,
dit Jerry Deisinger tout près d'eux.
Fouillez par ici d'abord,
commanda Sperling de ce ton supérieur qu'il employait en jouant au baseball dans l'équipe des minimes, parce que son père en était l'entraîneur. À l'intérieur du refuge, tous trois écoutèrent leurs adversaires explorer les buissons, regarder derrière les souches, écarter les broussailles. Mais l'extérieur de la base secrète était une vraie muraille. À moins d'en connaître tous les coins et recoins et de se glisser dans un trou plus petit qu'un tuyau d'égout, il était impossible d'en découvrir l'entrée. Du moins, les trois garçons à l'intérieur l'espéraient-ils. Des hurlements de triomphe éclatèrent un peu plus loin.
« Ils ont pris Kevin !»
chuchota Lawrence. Dale acquiesça et lui fit une fois de plus signe de se taire. Les bruits de pas s'éloignèrent vers le haut de la colline et il y eut d'autres cris. Mike s'assit et retira les brins d'herbe et les piquants de chardon plantés dans son pot laurier.
« Kevin ne va pas nous trahir ?»
demanda Dale. Mike eut un petit sourire.
« Il ne parlera pas de la base 3. Il leur montrera peut-être la base 5 ou la grotte, mais pas la base 3. » Ils savent déjà où se trouve la base 5, et on ne se sert plus de la grotte alors.
Remarqua Lawrence en se décidant enfin à parler à voix basse, maintenant que ce n'était plus nécessaire. Fatigué par les deux heures de galopade dans les collines, ils restèrent dans leur cachette à évoquer les fois où ils avaient échappé de peu à la capture et à plaindre Kevin. S'il refusait d'aider les autres, ceux-ci le considéreraient comme prisonnier. Puis ils fouillèrent leurs poches à la recherche de trucs à grignoter. Aucun d'eux n'avait vraiment apporté quelque chose à manger, mais Mike avait une pomme dans sa poche de jean, Dale une barre de chocolat aux noisettes plusieurs fois fondue et resolidifiée, et Lawrence une vieille boîte de bonbons où il restait encore quelques boules de gomme. Ils mangèrent de bon appétit ce repas, puis regardèrent couchés sur le dos les rayons de lumière et les éclats de ciel visibles à travers le toit de branches. Ils parlaient d'organiser une embuscade près de la carrière quand Mike fit soudain « chut » en montrant la pente. Dale se retourna à plat ventre et colla son visage contre les broussailles, en essayant de trouver une position qui lui donnerait une bonne vue du sentier. Il vit des chaussures, des brodequins d'hommes grands et bruns. Pendant un instant, il pensa que le gars avait les jambes enveloppées de pansements boueux. Puis il reconnut les espèces de guêtres de soldats dont Duane leur avait parlé. Et comment appelait-il ça déjà ? Des bandes moltières. Il y avait un type avec des brodequins et des bandes moltières à environ 2 mètres de la base 3. Dale apercevait même quelques centimètres de pantalon de lainage brun, bouffant au-dessus de ses bandages. « Qu'est-ce que ?» commença Lawrence en essayant lui aussi de distinguer quelque chose à travers les branches. Dale se retourna et posa la main sur la bouche de son frère. Celui-ci se débattit, mais pour une fois ne dit rien. Quand Dale chercha de nouveau à regarder entre les broussailles, les brodequins avaient disparu. Mike lui tapa sur l'épaule et désigna de la tête l'autre côté de la clairière. Quelqu'un marchait tout près de l'entrée, écrasant rameaux et feuilles sèches. Duane était en train d'en apprendre plus sur les Borgia qu'il n'avait envie d'en savoir. Il parcourait rapidement les pages, essayant d'emmagasiner un maximum d'informations en un minimum de temps. Cela faisait un drôle d'effet, un peu comme lorsqu'il captait sur une de ses radios plusieurs stations à la fois. Cette sorte de bachotage l'épuisait et lui donnait un peu le vertige, mais il n'avait pas le choix. Son oncle n'allait pas passer toute la journée à la bibliothèque. Tout d'abord, il apprit que tout ce que l'on disait des Borgia était soit faux, soit passablement déformé. Il s'arrêta quelques instants, les yeux dans le vague, pour réfléchir en mâchonnant sa branche de lunettes. La plupart des études sérieuses qu'il avait menées ces derniers temps lui avaient déjà démontré qu'il fallait accorder bien peu de crédit aux connaissances générales sur un sujet. Rien n'était aussi simple ni aussi évident que les non-initiés le croyaient. En était-il ainsi dans tous les domaines de la connaissance ? Dans ce cas, la simple idée du temps qu'il devrait passer à désapprendre avant de commencer à apprendre l'épuisait à l'avance. Il regarda les étagères de la salle en sous-sol. Elles étaient remplies de milliers de livres. L'idée qu'il n'arriverait jamais à les lire tous était déprimante. Jamais il ne pourrait prendre connaissance de toutes les opinions, tous les faits, tous les points de vue renfermés dans ce seul étage. Sans compter tout ce que pouvaient offrir les bibliothèques de Princeton, Yale, Harvard et autres hauts lieux du savoir qu'il avait bien l'intention de fréquenter un jour pour en assimiler le contenu. Il s'obligea à penser à autre chose, remit ses lunettes et relut ses notes. Lucrèce Borgia semblait plus être la victime d'une mauvaise presse que le monstre décrit par la légende. Pas de bague à chaton remplie de poison destinée aux amants et invités, pas de banquet où, avant même le dessert, les cadavres s'empilaient comme les bûches d'un ster de bois. Non, la réputation de Lucrèce Borgia souffrait des racontars d'historiens rancuniers. Duane regarda quelques-uns des ouvrages empilés à côté de lui. L'histoire de l'Italie, de Guicciardini, Le prince et les discours de Machiavel, plus quelques extraits de son histoire de Florence. Les commentaires bavards de Piccolomini, devenu le pape Pie II, l'ouvrage de Gregorovius sur Lucrèce Borgia, le Liber Notarum de Burchard, qui notait tous les jours les moindres événements de la cour pontificale à l'époque, mais pas un mot sur la cloche. Puis, par acquis de conscience, il regarda ce qu'il y avait sur Benvenuto Cellini, un des personnages historiques préférés de son père. Duane savait qu'il était né en 1500, 8 ans après que Rodrigo Borgia fut devenu le pape Alexandre VI. Cellini, en décrivant son emprisonnement au château Saint-Ange, un édifice massif construit par Adrien plus de 1400 ans auparavant, puis fortifié et transformé en lieu de résidence par Alexandre VI, mentionnait effectivement la cloche. « Je fus emprisonné dans une sinistre geôle située en contrebas du jardin, inondée d'eau et grouillante d'araignées et de vers venimeux. On me jeta un misérable matelas de paille et 4 portes se refermèrent sur moi. On ne me donna même pas à manger. Chaque jour, j'avais droit à 1h30 de faible lumière pénétrant par une étroite meurtrière dans cette sombre caverne. Le reste du temps, l'obscurité était totale. Et cette cellule était considérée comme la plus hospitalière de toutes. Par mes compagnons d'infortune, j'entendis parler des malheureux condamnés à passer leurs dernières années d'existence dans les plus immondes des puits, les prisons situées au fond du boyau vertical en haut duquel était suspendue la sinistre cloche du diabolique pape Borgia. Tout Rome savait que cette cloche, fondue dans un métal maléfique et consacrée par des pratiques maudites, était placée à cet endroit pour symboliser le pacte conclu entre le précédent pape et le démon. Chacun d'entre nous, accroupi dans l'eau fangeuse et mangeant des détritus, savait que le glas de cette cloche annoncerait la fin du monde. J'avoue qu'à maintes occasions, ce tocsin eût été le bienvenu. Dwayne prenait des notes. De plus en plus curieux. Cellini ne faisait pas d'autre allusion à la cloche, mais un passage précédent sur l'artiste Pintolicchio, contemporain du pape Borgia plutôt que de Cellini lui-même, semblait s'y rapporter. Sur l'ordre du pape, Dwayne contrôla qu'il s'agissait bien d'Alexandre VI, ce petit avorton sourd, Dwayne retourna en arrière pour s'assurer que ces mots se rapportaient bien à Pintolicchio, peintre du pape, aussi taré moralement que physiquement, entreprit de peindre les fresques qui donnent à la tour des Borgia son caractère inquiétant, et particulièrement celles qui ornent la salle des sept mystères tout au fond des appartements des Borgia. D'après le guide du Vatican, c'était le pape Alexandre VI qui avait ajouté cette tour au palais. Une note dans un traité d'architecture de 1886 précisait que la tour des Borgia avait été pourvue d'un clocher massif dans lequel seul le pape et ses bâtards avaient le droit de monter par un labyrinthe de couloirs et de portes toujours verrouillées. Dwayne retourna aux écrits de Cellini. Pintolicchio, sur l'ordre du souverain pontife, descendit dans la cité morte sous la ville afin d'y trouver inspiration et modèle pour les fresques des appartements des Borgia. À cet emplacement se trouvaient non pas des catacombes chrétiennes avec leurs saints ossements, mais des excavations de la Rome païenne dans toute sa gloire. On dit que Pintolicchio emmena apprentis et élèves dans cette exploration souterraine. Qu'on imagine ce qui leur apparut à la lueur des torches, des tunnels encombrés des dépouilles des Césars, des chambres, des couloirs, des rues entières où avaient été ensevelis les morts de Rome, des avenues oubliées sous les ruelles herbeuses de notre ville. Imaginez la surprise de Pintolicchio lorsque, après avoir bravé des hordes de rats et de chauves-souris géantes, il leva sa torche pour éclairer les décorations païennes peintes là par des artistes morts depuis plus de 15 siècles. Cet artiste maléfique apporta ses dessins païens dans les appartements du pape Borgia, dans sa tour, et s'en servit pour orner les pièces les plus secrètes de ce pape monstrueux, couvrant ainsi les murs, les voûtes, les plafonds et même la grosse cloche, le talisman, dit-on, de la famille suspendue en haut de la tour. De nos jours encore, ces peintures sont appelées grotesques, car elles furent copiées dans les cavernes impies ou grottes des entrailles de Rome. Oncle Hart se pencha sur l'épaule du jeune garçon. « Tu as bientôt fini ?» Il sursauta, remit ses lunettes, s'arracha un sourire. « Presque !» Tandis que son oncle parcourait les rayons voisins, Dwayne feuilleta les autres volumes. Il trouva une dernière mention de la cloche, là encore en rapport avec le peintre Pintolicchio. Dans la pièce menant de la salle des sept mystères, à l'escalier verrouillé que seul Borgia pouvait emprunter, le peintre avait reproduit l'essentiel des fresques enfouies et oubliées, étudiées à la lueur des torches sous l'eau ruisselant des voûtes. Ici, Pintolicchio avait peint sur tous les espaces disponibles des centaines de taureaux, certains disent des milliers. Le plus étrange n'est pas l'apparition du taureau dans son œuvre ou dans ce lieu secret. Le taureau était l'emblème de la famille Borgia et le bœuf bienveillant avait longtemps figuré dans les processions pontificales. Mais ces taureaux reproduits tout le long des tours et détours du chemin menant à l'escalier interdit n'étaient ni le noble emblème ni le bœuf paisible. Répété un nombre incalculable de fois sur les murs, les colonnes, les voûtes, apparaissait l'image, stylisée mais facile à reconnaître, du taureau d'Osiris, le dieu égyptien régnant sur le royaume des morts. Dwayne referma le livre et enleva ses lunettes. Son oncle s'approcha.
« Fini ?»«
Oui. »
« Alors, allons essayer le nouveau drive-in de McDonald's dans Memorial Drive. » Les hamburgers coûtent 25 cents de plus, mais il paraît qu'ils sont fameux.
Dwayne, toujours perdu dans ses pensées, monta derrière son oncle l'escalier menant au rez-de-chaussée et retrouva la lumière du jour. Les pas à l'extérieur de la base 3 s'arrêtèrent, sans qu'on les ait entendus s'éloigner. Mike, Dale et Lawrence s'accroupirent près du boyau d'entrée et attendirent, osant à peine respirer. Les bruits dans les bois étaient très nets. Un écureuil un peu plus haut, quelques cris de la bande de Chuck Sperling assez éloignée maintenant, au sud de la carrière sans doute, un croissement de corbeaux au sommet des arbres vers le cimetière des cavaliers. Mais pas un son ne venait du soldat embusqué, invisible, juste derrière la muraille de broussailles. Dale se glissa à son précédent poste d'observation, mais il ne vit rien. Puis soudain, ils entendirent une succession de pas rapides dévalant le sentier, le bruissement de buissons agités comme si quelqu'un cherchait l'entrée du tunnel. Dale retourna d'un bond près de l'entrée, Mike fit de même et se plaça de l'autre côté, bâton levé, prêt à bondir. Kevin Grumbatcher apparut dans le refuge. Dale et Mike se regardèrent et laissèrent retomber d'un même geste leur bâton avec un ouf de soulagement.
« Vous alliez m'écraser la tête ?»«
On croyait que c'était eux !»
expliqua Lawrence avec regret. Il adorait les bagarres. Dale comprit que Mike et son frère n'avaient pas vu les brodequins et les bandes molletières de l'inconnu et qu'ils avaient pris les pas entendus pour ceux de leurs adversaires.
« Tu es seul ?»
Mike se mit à quatre pattes pour s'en assurer.
« Bien sûr, sinon je ne serais pas venu. »«
Tu leur as pas parlé de la base 3 au moins ?» demanda Lawrence.
Kevin lui jeta un regard méprisant et s'adressa à Mike.
Ils m'ont dit qu'ils m'accepteraient dans leur camp si je révélais nos cachettes. Mais je n'allais pas faire une chose pareille. Alors ce mollasson de Fössner m'a attaché les mains derrière le dos avec une corde à linge et ils m'ont emmené avec eux comme si j'étais un esclave.
Il tendit les bras pour montrer les marques rouges sur ses poignets.
Comment tu t'es sauvé ?
Kevin sourit de toutes ses dents, très content de lui, avec sa brosse raide et sa pomme d'Adam apparente.
Quand ils se sont mis à vous courir après par ici, Fössner ne pouvait pas les suivre tout en me tirant. Alors, cet andouille m'a attaché à un arbre et il est parti en courant pour les rattraper. J'avais les doigts libres, alors j'ai juste reculé jusqu'à l'arbre et dénoué la corde.
« Bougez pas !» murmura Mike.
Il se glissa dans le tunnel sans toucher une seule branche. Les autres attendirent en silence pendant plusieurs minutes. Kevin se frottait les poignets, Lawrence mâchait un vieux bonbon trouvé dans une poche, et Dale attendait un cri, un bruit de lutte, un signe de la présence du type aperçu à travers les broussailles. Mike revint.
« Ils sont partis. J'ai entendu leur voix là-bas vers la 6. On dirait que Sperling et Digger rentrent chez eux. »«
Ouais, »
confirma Kevin.
« Ils en avaient assez. Ils ont dit qu'ils avaient mieux à faire à la maison. Dayzinger voulait rester, mais les Fössner suivent toujours Sperling. »«
Parfait. Il reste plus que Dayzinger et McCone. » Ils vont sûrement se cacher dans le coin et attendre qu'on sorte. »
Avec un morceau de bois, il traça une carte sur un coin de terre près de l'entrée.
« Connaissant Jerry, je suis sûr qu'il va retourner à la carrière. Là-bas, c'est pas les munitions qui manquent et il nous verra arriver, qu'on rentre par le pâturage de l'oncle de Dale ou par Gypsy Lane. Il va sûrement s'embusquer avec Bob sur les hauteurs, par là. »
Il avait représenté les sentiers et le trou d'eau et maintenant il dessinait un monticule à gauche du tas de gravier.
Il y a une espèce de creux au sommet de la plus haute butte. Vous vous en souvenez ?
On y a campé un été, non ?
Dit Dale. Mike traça des lignes sur le sol pour figurer le sentier qui partait de la base 3, montait sur la colline et traversait le bois et le pré derrière le cimetière avant de remonter près du tas de gravier où, à son avis, Dayzinger et McCone les attendaient.
Ils auront une vue dominante dans ces trois directions,
expliqua-t-il en dessinant des flèches vers le sud, l'est et l'ouest.
« Mais si on reste bien sous les pins, on pourra grimper presque jusqu'en haut sans être vu. »
Kevin fronça les sourcils.
« Les 15 derniers mètres seront à découvert. Le sommet est complètement pelé. » « Exact. On devra être très silencieux. Mais rappelez-vous, les ouvertures de ce petit fortin là-haut sont de l'autre côté. Si on ne fait pas de bruit, on sera sur eux avant même qu'ils sachent qu'on est dans le coin. »
L'enthousiasme de Dale se réveilla.
Et on pourra ramasser des mottes de terre en montant. Ça nous fera des munitions.
Kevin fronçait toujours les sourcils.
S'ils nous prennent à découvert, nous sommes cuits. C'était des pierres qu'ils lançaient ce matin. S'il le faut, on est aussi capable que de lancer des pierres,
rétorqua Mike.
Qui vote pour ?
Moi !
Hurla Lawrence, le visage illuminé par cette perspective.
Ouais, moi aussi,
dit Dale en contemplant la carte. Mike avait élaboré son plan sans la moindre hésitation et chaque centimètre de l'itinéraire prévu entre la base 3 et la butte utilisait un maximum de couverts. Cela faisait des années que Dale parcourait ces bois, mais il n'aurait jamais pensé à se servir du fossé d'irrigation qui traversait le champ derrière le cimetière.
« Ouais !» répéta-t-il.
« Allons-y !»
Kevin haussa les épaules.
« Du moment qu'ils ne me refont pas prisonnier ?»
Mike sourit, fit le V de la victoire et plongea dans le tunnel. Aussi silencieusement que possible, les autres suivirent.
« Tu as l'air bien préoccupé, fiston, » remarqua oncle Hart en abordant la descente vers la Spoon River. « Je peux t'aider ?»
Duane hésita. Devrait-il raconter ça à oncle Hart ? Mais pourquoi pas, après tout ? Il cherchait juste des renseignements sur Old Central. Ils traversèrent la rivière. Duane jeta un coup d'œil sur l'eau sombre en dessous qui zigzaguait sous un dais de branches. Puis il regarda à nouveau son oncle.
« Oui ? Pourquoi pas ?»
Il lui parla des coupures de presse, de la cloche des Borgia et des textes de Cellini qu'il avait lus à la bibliothèque. Quand il eut fini, il se sentit étrangement fatigué et gêné, comme s'il venait d'avouer quelque chose de personnel et d'embarrassant, mais en même temps soulagé. Oncle Hart sifflota et laissa passer quelques instants avant de répondre, pianotant sur son volant. Ses yeux semblaient fixés sur autre chose que la route.
« Tu crois que cette cloche est encore ici ? » finit-il par demander. « Dans l'école ?»
Duane tripota ses lunettes.
« Je ne sais pas. Je n'en ai jamais entendu parler. Et toi ?»
Oncle Hart secoua la tête.
« Jamais depuis que j'habite la région. Remarque, je ne suis là que depuis la fin de la guerre. C'est la famille de ta mère qui était du coin. Mais quand même, si tout le monde connaissait l'existence de cette cloche, il me semble que quelqu'un y aurait fait allusion devant moi. »
Ils avaient atteint le croisement de la 6 et de Jubilee College Road. Oncle Hart habitait à 4 km sur la route non goudronnée, mais il devait ramener son neveu chez lui. Un peu plus loin, sur leur gauche, la taverne de l'Arbre Noir apparaissait parmi les ormes et les chênes. Quelques pick-up étaient déjà garés sur le parking, bien que ce ne fût que le début de l'après-midi. Duane détourna la tête avant de pouvoir vérifier si le véhicule de son père se trouvait parmi eux.
« Écoute, petit, je vais poser quelques questions en ville à propos de cette cloche. Demandez à quelques vieux et regardez dans ma bibliothèque si j'ai quelque chose là-dessus. D'accord ?»
Le visage de Duane s'éclaira.
« Tu crois que tu as quelque chose ?»«
Cette cloche ressemble plus à un mirage qu'à un carillon de fonte et j'ai toujours été attiré par le pseudo-surnaturel. J'aime bien démystifier. » Je vais consulter quelques bouquins, hein, Crowley, des types comme ça. Ça te va ?
Génial !
C'était comme un poids en moins sur les épaules de Duane. Du coup, il trouva le courage de regarder en arrière avant que la taverne ne soit hors de vue. Pas trace de la guimbarde du pater. C'était peut-être un bon jour en fin de compte. En passant devant le cimetière, il aperçut plusieurs vélos appuyés contre la clôture du fond, sans doute Dale et les autres. S'il demandait à son oncle de l'arrêter, il pourrait les retrouver dans le bois. Mais non, il n'avait pas fait grand-chose à la ferme aujourd'hui, il était temps de s'y mettre. Le pater était à la maison. Il n'avait pas bu et travaillait dans le potager. Il avait le visage rouge et des ampoules aux mains, mais il était de bonne humeur, et oncle Hart resta boire une bière avec son frère. Duane sirota un coca en les écoutant plaisanter. Son oncle ne parla pas de la cloche. Après le départ d'Art, Duane roula ses manches de chemise et sortit Binet avec son père. Ils travaillèrent dans un silence amical pendant 2 heures, puis allèrent se laver avant le dîner. Duane fit cuire du riz avec des hamburgers et prépara le café pendant que son père bricolait dans l'atelier. Durant le repas, ils parlèrent politique. Le pater raconta comment il avait participé à la campagne en faveur d'Aldaï Stevenson lors des élections précédentes.
« Je ne sais pas trop pour ce Kennedy. » dit-il. « Je ne fais pas tellement confiance à un milliardaire. Ce serait bien qu'un catholique soit élu, pourtant. Il y a tellement de discrimination dans ce pays. »
Il raconta à Duane la campagne de A.E. Smith en 1928, qui s'était soldée par un échec. Duane avait lu des choses là-dessus, mais il écouta et approuva, simplement heureux de parler avec son père sans que celui-ci s'en prenne à quelqu'un.
« Alors, tu vois,
Les chances d'un catholique sont plutôt minces, conclut-il. Martin resta assis quelques minutes, hochant la tête d'un air approbateur, comme s'il repassait dans sa tête son argumentation et concluait qu'elle était sans faille. Puis il se leva pour débarrasser la table, rincer les assiettes sales sous le robinet et les empiler dans l'évier. Duane jeta un coup d'œil dehors. Il était un peu plus de 17 heures, encore tôt, mais l'ombre du peuplier derrière la maison s'allongeait vers la fenêtre. S'efforçant de prendre un ton dégagé, il posa la question qu'il avait craint de poser tout l'après-midi.
« Tu sors ce soir ?»
Le pater s'arrêta de remplir l'évier. La vapeur d'eau avait embrumé ses verres de lunettes. Il les enleva et les essuya avec un pan de sa chemise comme s'il réfléchissait à sa réponse.
« Je ne crois pas, » répondit-il enfin.
« J'ai du travail à l'atelier et après on pourrait peut-être finir cette partie d'échecs.
Non ?»
Duane acquiesça.
« Je ferais mieux de m'y mettre alors. »
Il finit son café, posa sa tasse sur la paillasse, sortit et ne s'autorisa à sourire qu'une fois dans la grange.
L'attaque surprise fut une réussite totale. Bien que les derniers 10 mètres aient été plutôt angoissants, une reptation sans aucune protection, si McCone ou Deisinger avaient regardé par-dessus leur rempart, Mike, Kevin, Dale et Lawrence, qui pourtant avaient été pris d'un fou rire nerveux, étaient arrivés jusqu'en haut. Au sommet, ils avaient surpris Jerry et Bob en train de scruter l'autre versant, avec une provision de mottes hautes de 2 mètres derrière eux. Mike tira le premier et toucha Bob McCone dans le dos, juste au-dessus de la taille. Cela déclencha aussitôt une bagarre à coups de mottes, puis une lutte au corps à corps au sommet de la butte conique. Kevin, Deisinger et Dale dégringolèrent la pente, dérapant sur 10 mètres. Puis Kevin se releva et remonta vers le rempart et l'arsenal. Mais McCone fit tomber sur lui une grêle de mottes, jusqu'à ce que Mike l'attaque à son tour par derrière, et ce fut leur tour de rouler en bas de la pente dans un nuage de poussière. Dale reçut une motte en pleine poitrine. Il s'assit par terre, haletant, et il mit au moins 3 minutes à récupérer. Puis Mike, en dévalant de nouveau la pente, heurta un caillou à demi enterré et se blessa au front. La coupure était superficielle, mais elle saigna de façon impressionnante. Deisinger leva prudemment la tête au-dessus du sommet, juste à temps pour recevoir une motte dans la bouche lancée de près. Il jura, battit en retraite presque jusqu'au pied du monticule, se tâta longuement la bouche pour s'assurer qu'il n'avait pas perdu de dents, puis s'essuya la lèvre inférieure et, le menton maculé de boue et de sang, revint à la charge. Kevin était juste derrière Mike lorsque celui-ci, levant le bras pour lancer une motte de terre, lui envoya le coude en pleine figure. Il y eut un temps d'arrêt tandis que, au sommet, les autres combattants attendaient la suite. Kevin profita de cet accident pour faire le clown, louchant, tournoyant sur lui-même, en chancelant, jusqu'à ce que ses jambes le lâchent et qu'il tombe en arrière sur la pente, raide comme un cadavre. Les autres enfants éclatèrent de rire et marquèrent leur approbation par une volée de mottes. Ce fut Lawrence qui perfectionna le jeu. Pendant un glorieux instant, il ne resta plus que lui au sommet de la butte. Il grimpa sur le rempart de terre et leva un bras au-dessus de la tête en criant «
C'est moi le roi !»
Il y eut un bref silence respectueux, suivi d'une salve de mottes. Quelques-unes l'atteignirent, il réussissait toujours à détourner in extremis le visage, mais il finit par être touché dans le dos et aux jambes, comme par un tir de mitraillette qui fit voler sa casquette.
Hey « Hé !»
cria Dale en faisant signe aux autres qu'il réclamait un cessez-le-feu. Lawrence ne bougeait plus et Dale savait que s'il se mettait à pleurer, cela signifierait qu'il avait vraiment très mal. Au milieu d'un nuage de poussière, il vit son petit frère tourner lestement sur lui-même et tomber la tête la première. Mais pas tomber vraiment, plutôt se jeter dans les airs avec la grâce d'un danseur, faire une pirouette complète avant de retomber sur la pente et de rebondir, bras et jambes en croix, parfaitement détendu, puis rouler jusqu'en bas, jusqu'au bord de la carrière et s'arrêter, un bras alangui trempant dans l'eau. Les garçons qui s'étaient écartés pour le laisser descendre la pente poussèrent des hurlements d'approbation. Lawrence se releva, brossa la poussière de ses vêtements et de ses cheveux et fit un salut théâtral. À partir de cet instant, ils jouèrent à mourir, se dressant tour à tour au sommet, tandis que les autres lançaient des mottes. Une fois touchés, ils mouraient. La mort de Kevin fut incontestablement comique, quoique raide, comme un vieil acteur touché par une balle. Il s'arrangea même pour ne pas perdre sa casquette. Deisinger et McCown furent les meilleurs quant aux effets sonores et se laissèrent tomber avec un maximum de hurlements, de grognements et de cris d'agonie.
Mike tomba gracieusement et resta étendu sur le sol. Une seconde volée de mottes ne réussit même pas à le décider à se relever tout de suite. Dale suscita l'approbation générale en étant le premier à mourir à plat ventre. Toutefois, il s'érafla le nez en creusant un long sillon avec la tête dans la terre meuble de la pente. Mais ce fut encore Lawrence le meilleur. Sa dernière prouesse fut de reculer en chancelant et de rester hors de vue si longtemps que les autres commencèrent à se demander où était passé le maudit gamin. Puis il réapparut au sommet non pas en courant, mais en sautant. Dale sentit son cœur se serrer en voyant son petit frère voler dans le vide à 10 mètres au-dessus de lui. Sa première idée fut « Mon Dieu, il va se tuer !» et la seconde « Maman va me tuer !» Lawrence ne se tua pas. Il avait assez d'élan pour sauter dans l'eau, à 5 centimètres du bord, et éclabousser McCone et Kevin. Cette partie du trou d'eau était la moins profonde, à peine 1,50 m à cet endroit, mais Dale eut peur que son frère ne se noie, sa petite tête pointue plantée dans la vase. Il arrachait son t-shirt avec la vague idée de sauter à son tour pour le sauver, bien que révulsé à la perspective de faire du bouche-à-bouche à ce petit monstre, quand Lawrence remonta à la surface, un large sourire découvrant ses dents de lapin. Cette fois, ils applaudirent. Tous durent essayer ce que Kevin appela le saut de la mort. Quand arriva le tour de Dale, celui-ci ne s'exécuta qu'après 3 faux départs, et seulement parce que les autres le regardaient d'en bas. La mare était si loin. Même pour un grand de 7e avec de longues jambes et du souffle, il fallait prendre de la vitesse en montant l'autre versant et avoir assez d'élan au moment de sauter du rempart pour avoir une chance de tomber dans l'eau. Dale, ni aucun des autres, n'aurait jamais tenté le coup si Lawrence ne leur avait pas démontré que c'était faisable, et malgré lui, il éprouvait une certaine admiration pour le petit casse-cou. Il s'envola donc, plana quelques centièmes de seconde au niveau de la butte, au-dessus des têtes de ses amis, les yeux fixés sur la mare, si loin au-delà d'un vaste désert de boue durci par le soleil. Puis la force de gravité parut se manifester à nouveau, et il se sentit tomber, battant des bras et des jambes, certain d'y arriver, puis absolument sûr de ne pas y arriver. Il toucha l'eau tiède et verte à quelques centimètres du bord, s'enfonça, remonta d'un coup de pied et ressortit à la lumière, hurlant de joie sous les applaudissements de ses copains. Kevin fut le dernier à essayer, après bien des hésitations, des toussautements, des délibérations avec lui-même. Il vérifia la direction du vent, relassa 10 fois ses chaussures, augmenta un peu la pente de la rampe de lancement et s'élança finalement du sommet comme un boulet de canon, jambes bien jointes et se bouchant le nez d'une main, pour atteindre l'eau bien plus loin que les autres, à plus d'un mètre du rivage. Il avait été le seul à enlever son jean et son t-shirt, ne gardant que son caleçon et ses tennis. Il refit surface avec un large sourire. Les autres applaudirent, poussèrent des hurlements et jetèrent ses vêtements à l'eau. Il sortit en grommelant et regarda à peine Lawrence sauter une dernière fois en faisant une cabriole. Déjà mouillés, ils contournèrent le trou d'eau pour se baigner du côté le plus profond, afin de plonger de la falaise. Ils n'avaient guère l'habitude de se baigner ici. La présence d'un grand nombre de mocassins d'eau et la méfiance des parents envers la mare sans fond de la carrière les convainquaient en général d'attendre qu'un adulte veuille bien les conduire en voiture à Hartley's Pond sur la route d'Oak Hill. La baignade de cet après-midi n'en fut que plus délectable. Ils se séchèrent ensuite sur le bord pendant presque 1 heure, puis changèrent d'équipe pour faire une partie de cache-cache dans les bois.
« Qui vient avec moi ?»
demanda Mike en regardant avec un sourire la bande vêtue de vêtements secs mais tout froissés. Lawrence et McCown le suivirent. Dale, Jerry et Kevin leur accordèrent 5 minutes pour se cacher avant de se lancer à leur poursuite. Dale savait que ni Mike ni Lawrence n'utiliseraient une de leurs bases secrètes. Ils jouèrent ainsi 1 heure et demie, ne s'arrêtant que pour boire à la bouteille dont McCown s'était muni et qu'il avait remplie au trou d'eau, bien que Kevin ne fût guère tenté par la couleur verdâtre du liquide. Enfin, ils revinrent tous ensemble. Leur bicyclette les attendait là où ils les avaient laissées. Le soleil ressemblait à un globe rouge suspendu au-dessus des champs de maïs. L'air était lourd de pollen, de poussière, mais le ciel devenait translucide et bleuté.
« Le dernier arrivé à l'arbre noir est une tapette !»
cria Jerry Dasinger en démarrant avant les autres et en pédalant de toutes ses forces dans les ornières. Les autres le suivirent avec de grands cris. Mike gagna la course. Ils se calmèrent en tournant vers Elmhaven, pédalant de front en 2 groupes de 3. Lawrence lâcha son guidon et croisa les bras, les autres l'imitèrent, et ils roulèrent silencieusement entre les murailles de maïs.
Dale ne jeta même pas un coup d'œil vers l'endroit où la clôture avait été réparée après la tentative d'assassinat contre Dwayne McBride. Des traces de roues étaient encore visibles dans le fossé, et le maïs était écrasé bien au-delà de la clôture, mais Dale préféra regarder la rangée d'arbres inondés de soleil derrière laquelle se cachait Elmhaven. Il avait mal partout. Des égratignures lui zébraient les bras et les jambes, son jean raidi par la transpiration le démangeait, il était là, déshydraté au point d'avoir les lèvres gercées et la migraine, et affamé car il n'avait rien mangé de consistant depuis son petit déjeuner 13 heures plus tôt. Mais il se sentait merveilleusement bien. L'impression cauchemardesque d'une menace de plus en plus palpable, qui l'obsédait depuis le dernier jour d'école, semblait s'être dissipée. La terreur provoquée par la rencontre avec CJ et son fusil avait disparu. Heureusement que Mike et les autres avaient tacitement décidé de laisser tomber cette histoire de Tubby et d'Old Central. Enfin, les vacances étaient telles qu'elles devaient être. Au carrefour, McCone et Dasinger levèrent le bras en signe d'adieu et continuèrent tout droit, pressés d'arriver chez eux. Mike, Dale, Kevin et Lawrence pédalèrent tranquillement dans l'ombre des vieux arbres. Dale cria un joyeux au revoir aux deux autres et, suivi de son frère, prit la direction de la maison. C'est ainsi que devaient se passer des vacances. C'est ainsi qu'elles allaient se passer. S'il avait su combien il se trompait.